Vous êtes sur Médien et vous êtes très nombreux également à nous écouter sur Médien.com. Merci à vous de votre fidélité. Alors, je le disais en début d'émission, ce matin, on essaie également de comprendre l'endométriose, cette maladie, laquelle dans certains cas peut être asymptomatique, dans d'autres cas, et c'est souvent le cas, elle peut provoquer donc de fortes douleurs, voire une infertilité. Alors, quels en sont les symptômes? Quelles sont les causes fréquentes? Quelles sont les personnes à risque? Qu'en est-il en termes de traitement? Autant de questions et d'autres qu'on pose ce matin à notre docteur gynécologue obstétricienne, docteur Basma Koubaïti. Bonjour.
Toujours un plaisir d'être parmi vous.
Merci à vous. D'abord, l'endométriose, c'est quoi, docteur?
Alors, c'est une très bonne question parce que l'endométriose, c'est une maladie qui est peu connue.
On n'en parle pas assez, justement, effectivement.
On n'en parle pas assez car elle est sous-diagnostiquée. Est encore sous-diagnostiquée. Parfois, il faut 7 ans avant que le diagnostic de l'endométriose ne soit posé. Quoique, c'est une maladie assez fréquente et qui va toucher au moins 1 femme sur 10. Mmh. Donc, l'endométriose, sur le plan scientifique, c'est la présence de tissus de la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Donc, ces petites cellules peuvent aller se localiser au niveau des ovaires, au niveau des trompes, au niveau du tube digestif, du rectum, au niveau des ligaments, au niveau des muscles, et ça va créer des douleurs. C'est donc, il y aura un impact sur la qualité de vie, car c'est des douleurs cycliques et souvent qui sont intolérables.
Elles sont intolérables de la même manière pour chaque femme.
Le retentissement sera tel qu'il aura un impact professionnel, conjugal et social. Ce n'est pas uniquement des douleurs de règles simples pour lesquelles un simple traitement antalgique va permettre de résoudre la douleur et de la calmer. D'accord. Donc, c'est des douleurs qui sont difficilement soulagées par les antalgiques.
Et justement, quels en sont les symptômes? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à reconnaître justement l'endométriose?
Alors, classiquement, la plupart des jeunes filles, des femmes en âge de procréer auront des douleurs cycliques en période de menstruation. Donc, on a comme principal symptôme des douleurs de règles cycliques, mais là qui sont invalidantes, c'est-à-dire à tel point que la jeune fille ou la femme sera amenée à aller consulter aux urgences pour avoir une injection pour être soulagée, qu'elle aura recours à plusieurs antalgiques à la fois, elle combinera plusieurs médicaments à la fois et ne sera pas soulagée de façon efficace et ça peut durer sur toute la période de règles, d'accord ? Donc le principal symptôme, c'est la douleur pelvienne qui est cyclique et qui va se reproduire à chaque période de règles. On peut avoir des douleurs digestives à type de nausées, de vomissements, de diarrhées qui se déclenchent en période de règles et ça va nous faire penser à des localisations extra-utérines au niveau digestif extra-pelvienne. On peut également avoir, comme vous l'avez souligné, ça peut être diagnostiqué au moment d'une infertilité pour un bilan d'infertilité ou de retard de procréation.
D'accord.
Et parfois, on peut avoir des douleurs lors de la miction et là, c'est un peu plus rare.
Alors
voilà,
là, on parle de
principaux symptômes.
D'accord, on parle de la jeune fille donc en âge de procréer. Donc ça peut être la jeune fille comme ça peut être la jeune femme d'un certain âge.
Il n'y a pas d'endométriose avant la puberté et il n'y a plus d'endométriose après la ménopause car les cellules du tissu utérin sont nourries par les hormones et donc tant que la femme est active, c'est-à-dire jeune fille adolescente en âge de procréer ou passer la quarantaine, tant que ces hormones sont fonctionnelles, elle aura des symptômes d'endométriose.
Quelles sont les causes fréquentes de cette maladie, docteur Basma Koubaïti?
Alors, c'est une maladie qui reste assez peu méconnue sur le plan physiopathologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle se crée. Il y a encore beaucoup de théories qui sont à l'étude et aucune ne donne réelle satisfaction. Il faut savoir qu'il y a une théorie embryonnaire, c'est-à-dire qu'il y a des résidus de cellules utérines qui sont là depuis la vie embryonnaire, depuis le temps où le bébé était dans le ventre de sa maman, et qui va faire que ces cellules vont se développer en extra-utérin.
D'accord.
Il y a également une théorie qui parle de migration des cellules utérines via les vaisseaux lymphatiques et les vaisseaux sanguins qui va permettre leur localisation ailleurs. On a également la théorie du reflux menstruel, c'est-à-dire pendant les règles, on a un reflux des règles qui va se faire de l'utérus via les trompes et qui va faire sortir les cellules endométriales vers le les ovaires et parfois en dehors de la dans le pelvis, d'accord, en dehors des ovaires et des trompes. Mais il faut savoir que plusieurs femmes auront ce reflux menstruel, c'est naturel, mais toutes ne vont pas développer une endométriose.
D'accord.
Et on a également la cause post-opératoire, c'est-à-dire tout ce qui est chirurgie sur l'utérus, césarienne, chirurgie de myomectomie pour enlever des fibromes, chirurgie pour un kyste ovarien. Donc tout acte opératoire peut faire développer des cellules endométriales en dehors de l'utérus. Parfois, on a des nodules d'endométrium qui vont se développer sur le muscle utérin après une césarienne ou sur la cicatrice de la césarienne cutanée. Ça, c'est pas une erreur médicale, c'est pas une erreur du chirurgien, mais c'est parce que quand on nettoie, ben, les cellules sont microscopiques, elles peuvent partir, se localiser, se développer ailleurs que là où elles devraient être.
Alors, docteur Basma-Koubaïti, une question qui revient très fréquemment, est-ce que c'est une maladie héréditaire?
Alors, sincèrement, pour le moment, aucune étude n'a prouvé le facteur génétique. Donc, l'hérédité n'est pas pour le moment mise en cause dans la théorie du développement de l'endométriose.
Très bien, parfait. Alors, quels peuvent en être les risques les plus graves, docteur?
Alors, il faut savoir que le risque le plus important, c'est l'impact déjà sur la vie au quotidien, qui est cyclée de façon cyclique. La femme est quasi handicapée dans son quotidien, dans sa gestion de son foyer, dans sa vie professionnelle, conjugale, familiale. Donc ça, c'est quand même invalidant parce que c'est l'impact principal. Par la suite, souvent, on a des patientes avec une endométriose légère et qui ne va pas rencontrer de problème de fertilité, qui aura des grossesses spontanées sans aucun souci, mais je dirais que l'impact secondaire le plus important, c'est le trouble et l'impact sur la réserve ovarienne, car l'endométriose peut entraver un cycle ovarien normal dans le sens où l'ovule ne se développera pas normalement, ou parfois on n'aura quasiment pas d'ovulation et donc un retard de fertilité, de grossesse. Et donc il faut pouvoir faire le diagnostic à temps, prendre en charge ces patientes, les rassurer et les aider et les orienter vers un circuit de procréation médicalement assistée, adaptée.
Dont la FIV, on en parlait la semaine dernière.
Dont la FIV, exactement.
Très bien. Alors en termes de diagnostic, comment ça se passe concrètement?
Alors, le diagnostic, donc souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un retard de diagnostic. Pourquoi ? Parce que pour les gens, avoir des douleurs de règles, c'est normal. Mais il faut pouvoir apprécier cette sévérité, donc sur une échelle de 1 à 10, pouvoir positionner l'intensité de la douleur. Donc l'interrogatoire que mènera le médecin spécialiste devra apprécier cette sévérité. C'est très très important parce que des douleurs normales de règles, comme je l'ai dit, en général sont calmées par des antalgiques simples, du paracétamol, au pire un petit comprimé d'anti-inflammatoire. Mais on n'aura pas besoin de faire des injections de façon répétitive plusieurs fois tout le long du cycle pour pouvoir gérer ces douleurs de règles. D'accord ?
D'accord.
L'examen clinique sera complet, bien sûr, pour voir s'il n'y a pas de problème hormonal qui peut entraîner des douleurs de règles. Mais le diagnostic, il est partiellement posé par l'échographie, quand on aura un kyste ou un nodule que l'on pourra voir à l'échographie, un kyste ovarien.
D'accord.
Mais le vrai diagnostic est fait par l'IRM. Donc l'IRM, elle est plus sensible. Elle va détecter les kystes, leur localisation, les localisations diverses en dehors du pelvis, donc en dehors de l'utérus, des ovaires, en dehors des ligaments. Donc elle va chercher une localisation digestive, une localisation rectale, une localisation vésicale, une localisation ligamentaire, chose que l'on n'arrive pas parfois à visualiser à l'échographie. Mmh. Et il faut savoir qu'il y a également la celluloscopie, donc la celluloscopie. La celluloscopie, elle va permettre une visualisation directe des lésions, mais en général, celle-ci ne peut être envisagée que si l'on envisage un geste chirurgical associé, c'est-à-dire qu'on a découvert un kyste, qu'on a besoin de faire un acte opératoire, soit sur les trompes, soit pour libérer les adhérences, soit pour éliminer un kyste avant de faire une cellulochirurgie. On ne peut pas faire une chirurgie pour toutes les femmes pour poser le diagnostic de la maladie. Donc l'IRM reste pour le moment l'examen le plus sensible et le plus adapté pour poser le diagnostic de façon correcte.
Et on y arrive forcément, bien sûr, le traitement.
Alors, le traitement, il existe. Donc, on a plusieurs volets. Le traitement, essentiellement, pour but de gérer les symptômes, pour gérer l'importance et réduire cette invalidité liée par l'intensité des douleurs. Donc, il n'y a pas de traitement définitif pour l'endométriose. Donc, on ne fait que gérer. C'est vrai que un tiers des femmes ayant une endométriose légère vont pouvoir avoir une régression de cette endométriose sous traitement, mais il ne faut pas espérer un traitement miracle, et pour le moment, ça n'existe pas. Deux tiers des cas, donc on a dit qu'un tiers des femmes vont pouvoir évoluer spontanément et avoir une régression, une amélioration de leur qualité de vie. Et dans deux tiers des cas, on peut avoir une évolution vers des formes un peu graves, une aggravation des lésions. Donc, chaque personne aura une prise en charge différente. Il n'y a pas de prise en charge codifiée. En général, le traitement est hormonal. Donc, le but, c'est que ces cellules utérines ne fonctionnent plus. Donc, on les met au repos. Et comment est-ce qu'on va les mettre au repos? En combinant soit un traitement par pilule, soit un traitement par stérilet hormonal, associé bien sûr aux antalgiques si besoin. Chez certaines femmes, on pourra même envisager de créer une ménopause artificielle, mais souvent les effets secondaires sont tellement importants que la patiente et les femmes sont parfois réticentes dans ce sens.
Alors on entend souvent parler de ces découvertes scientifiques qui pourraient révolutionner les traitements. On ne peut pas ne pas parler de chirurgie. Donc, est-ce que c'est un dernier recours, finalement, la chirurgie, docteur Koubaïti?
Alors, on ne proposera pas la chirurgie à toutes les patientes parce que c'est une chirurgie qui est en général assez complexe, qui nécessite beaucoup de dextérité. Donc, un chirurgien expert, on en a quelques-uns au Maroc, alhamdoulilah. Donc, on a des chirurgiens d'un niveau d'expertise très élevé qui permettent de prendre en charge des endométrioses graves, profondes. La chirurgie, c'est souvent une résection de kystes et la résection des nodules endométriosiques. Donc, quand on a des endométrioses très sévères, invalidantes, avec localisation à atteinte neurologique sévère, donc on va partir nettoyer en profondeur et ça nécessite beaucoup de dextérité. Et en général, c'est par celluochirurgie. Donc, c'est un niveau d'expertise assez élevé. Par rapport aux découvertes récentes, donc oui, il y a des découvertes récentes. Ils sont encore en phase d'essai. Donc il y a pour tout ce qui est HIFU, donc c'est les techniques à haute fréquence d'intensité. Donc ils permettent de prendre en charge essentiellement les endométrioses rectales qui sont à l'origine de douleurs au moment des rapports. On a également l'énergie plasma, donc c'est des chirurgies avec de l'énergie plasma qui sont en phase d'essai en France pour préserver, pour traiter les lésions sans abîmer les organes. Bien sûr, donc tout ça, c'est encore en phase d'étude, il n'y a pas encore de retour assez important. Et comme je l'ai dit, ça nécessite une certaine dextérité pour y avoir recours.
Docteur Basma Koubaïti, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne. Alors, pour finir, vos conseils à toutes ces personnes qui nous écoutent afin de ne pas passer à côté de cette maladie qu'est l'endométriose?
Alors, je dirais qu'il faut à un certain moment consulter devant des douleurs de règles récurrentes, douloureuses, très douloureuses
surtout.
Et persistantes qui durent pas uniquement le premier jour du cycle, mais deuxième, troisième, tout au long du cycle. Souvent, si elles sont associées à des symptômes tels que des nausées ou des vomissements, donc consultez votre médecin, tirez la sonnette d'alarme, préciser et voir avec votre médecin s'il y a besoin de faire ou pas une IRM à la recherche d'une endométriose, car souvent l'échographie est normale. Donc, car je l'ai dit, l'endométriose, elle est sous-diagnostiquée partout dans le monde, pas uniquement chez nous, c'est sous-diagnostiquée dans le monde entier. C'est un retard de diagnostic, car souvent on se cache derrière, vous avez des douleurs de règles, c'est normal, ça va passer après le mariage. Après, on a beaucoup de théories dans ce sens-là.
D'accord. Donc, il faut aller consulter, évidemment, si on a le moindre doute. Merci beaucoup, docteur Basma Koubaïti. Je rappelle que vous êtes spécialiste en gynécologie chez Obstétrique. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation.
Merci à vous. Merci pour l'intérêt que vous portez à ces sujets qui sont très, très importants.
Et merci.
Et au plaisir, peut-être, sur les ondes de médias.
À la semaine prochaine, j'ai envie de vous dire.
Inch'Allah.
Bonne journée, au revoir.